Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle de lecture et de découverte, une émission destinée à vous faire aimer la lecture. Une émission pour titiller vos neurones littéraires, une émission qui vous donne envie d'en savoir plus sur un livre. Hervé est là pour le mettre en bouche, le mettre
Bonjour.
En voix.
Bonjour.
Bonjour Hervé. Hervé, aujourd'hui tu n'es pas venu seul. Présente-nous donc ce grand gaillard qui se trouve à tes côtés.
Je ne sais pas comment le présenter. On va dire tout simplement que ce grand gaillard qui est à mes côtés s'appelle Thierry Courtemanche.
Bonjour Thierry.
Bonjour Dominique.
C'est charmant. Donc, vous êtes venus aujourd'hui tous les deux pour nous lire un livre à deux voix. Il s'agit d'un roman épistolaire, je crois, Hervé.
C'est tout à fait ça.
Présente-nous un petit peu le livre.
Ce roman s'appelle « Inconnu à cette adresse » d'une certaine ou d'un certain, croyait-on à l'époque, Cressman Taylor. Ce roman, donc, comme tu l'as dit, ou plutôt un échange épistolaire, a été publié en 1939 aux États-Unis et en France tardivement, en 2002. Donc par Catherine Cressman Taylor, une Américaine. Ce qui veut dire qu'à la parution de ce livre, elle ne savait pas quelle serait l'issue de cette guerre, ni même si les USA y participeraient. On ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec les romans de Stefan Zweig. Par contre, tout comme lui, elle avait déjà eu la clairvoyance du drame qui allait se perpétrer, notamment à l'encontre des Juifs d'Europe. Cet échange de lettres donne un roman assez court. Voilà pourquoi, même si ce n'est pas l'habitude de l'émission, mon ami Thierry Courtemanche et moi-même avons décidé de le lire intégralement. Je vous préviens donc ainsi, chers auditeurs, que cette lecture fera donc l'objet de deux émissions. Voici en deux mots l'histoire. Deux amis allemands, mais installés aux USA entre les deux guerres, ont monté une affaire de vente de tableaux à de riches clients. L'un d'eux, Martin Schulz, joué par Thierry, a décidé de retourner en Allemagne en 1932 pour repérer des artistes et envoyer leurs tableaux aux USA afin de les vendre plus cher. Le second, Max, juif et joué par moi-même, est resté aux États-Unis afin de faire fructifier leur affaire commune. Vous savez tout ou presque. Vous êtes prêts ? Galerie Schulz à Eisenstein, San Francisco, USA. Pour R. Martin Schulz, Munich, Allemagne. Le 12 novembre 1932. Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne, comme je t'envie. Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden, la grande avenue de Berlin, agit encore sur moi, tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Et voilà que maintenant on en a même fini avec l'arrogance prussienne et le militarisme. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon vivre. Ta nouvelle adresse a fait grosse impression sur moi, et je me réjouis que la traversée ait été si agréable pour Elsa et les rejetons. Personnellement, je ne suis pas aussi heureux que toi. Le dimanche matin, je me sens désormais bien seul, un pauvre célibataire sans but dans la vie. Mon dimanche américain, c'est maintenant au-delà des vastes mers que je le passe en pensée. Je revois la grande vieille maison sur la colline, la chaleur de ton accueil. Une journée que nous ne passons pas ensemble est toujours incomplète, m'assurais-tu. Et notre chère Elsa, si gaie, qui accourait vers moi, radieuse, en s'écriant « Max, Max !» puis me prenait la main pour m'entraîner à l'intérieur et déboucher une bouteille de mon schnapps favori. Et vos merveilleux garçons, surtout ton Heinrich si beau, quand je le reverrai, il sera déjà un homme. Et le dîner, puis j'espérais manger un jour comme j'ai mangé là-bas, Maintenant, je vais au restaurant et devant mon roast beef solitaire, j'ai des visions de Gebackener Schinken, cet exquis jambon en brioche fumant dans sa sauce au vin de Bourgogne. Et les vins si précautionneusement déchargés des bateaux allemands. Et les toasts que nous avons portés en levant nos verres pleins à ras-bord pour la 4e, la 5e, voire la 6e fois. Naturellement, tu as bien fait de partir. Malgré ton succès ici, tu n'es jamais devenu américain. Et maintenant que notre affaire est si prospère, tu te devais de ramener tes robustes fils dans leur patrie pour qu'ils y soient éduqués. Quant à Elsa, sa famille a dû lui manquer toutes ces longues années. Ses proches seront également contents de te voir, j'en suis sûr. Le jeune artiste impécunieux de naguère devenu le bienfaiteur de la famille. Voilà un petit triomphe que tu savoureras modestement, je le sais. Les affaires sont toujours bonnes. Madame Levin a acheté le petit Picasso au prix que nous demandions, ce dont je me félicite. Je laisse lentement venir la vieille Madame Fleischmann à l'idée d'acquérir la hideuse Madone. Personne ne se soucie de lui dire que telle ou telle pièce de sa collection est mauvaise, parce que toutes le sont. Il n'empêche que je n'ai pas ton merveilleux savoir-faire pour vendre à des matrones juives. Je suis capable de les persuader de l'excellence d'un investissement, mais toi seul avais, concernant une œuvre d'art, l'approche spirituelle de nature à les désarmer. De plus, elles n'ont sans doute pas vraiment confiance en un autre juif. J'ai reçu hier une charmante lettre de Griselle. Elle me dit qu'il s'en faut de peu pour que je devienne fière de ma petite sœur. Elle a le rôle principal dans une nouvelle pièce qu'on joue à Vienne, et les critiques sont excellentes. Les années décourageantes qu'elle a passées avec de petites compagnies commencent à porter leurs fruits. Pauvre enfant, ça n'a pas été facile pour elle, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle a du cran, en plus de la beauté, et, je l'espère, du talent. Elle me demande de tes nouvelles, Martine, avec beaucoup d'amitié. Plus la moindre amertume de ce côté-là, ce sentiment passe vite à son âge. Il suffit de quelques petites années pour que la blessure ne soit plus qu'un souvenir. Bien sûr, aucun de vous deux n'était à blâmer. Ces choses-là sont comme des tempêtes, on est d'abord transi, foudroyé, impuissant. Puis le soleil revient. On n'a pas complètement oublié l'expérience, mais on est remis du choc. Il ne reste à Griselle que le souvenir de la douceur et non plus le chagrin. Toi ou moi ne nous serions pas comportés autrement. Je n'ai pas écrit à ma petite sœur que tu étais rentrée en Europe, mais je le ferai peut-être si tu penses que c'est judicieux. Elle ne se lie pas facilement et je sais qu'elle serait contente de sentir qu'elle a des amis non loin d'elle. 14 ans déjà que la guerre est finie. J'espère que tu as entouré la date en rouge sur ton calendrier. C'est fou le chemin que nous avons parcouru en tant que peuple depuis le début de toute cette violence. Mon cher Martine, laisse-moi de nouveau t'étreindre par la pensée et transmets mes souvenirs les plus affectueux à Elsa et aux garçons. Ton fidèle, Max.
Le 10 décembre 1932, à Max Eisenstein, Galerie Schulz, Eisenstein, San Francisco. Max, mon cher vieux compagnon, merci de la promptitude avec laquelle tu m'as envoyé les comptes et le chèque. Mais ne te crois pas obligé de me commenter nos affaires avec un tel luxe de détails. Tu sais que je suis d'accord avec tes méthodes. D'autant qu'ici, à Munich, je suis débordé avec mes nouvelles activités. Nous sommes installés, mais quelle agitation! Comme je te l'ai dit, il y avait longtemps que cette maison me trottait dans la tête. Et je l'ai eue pour un prix dérisoire. 30 pièces et un parc de 5,5 hectares. Tu n'en croirais pas tes yeux. Mais il est vrai que tu ignores à quel niveau de misère est réduit notre pauvre pays. Les logements de service, les écuries et les communs sont très vastes. Et crois-le ou non, pour les 10 domestiques que nous avons ici, nous payons le même prix que pour les 2 seuls que nous avions à San Francisco. Aux tapisseries et autres pièces que nous avions expédiées par bateau, s'ajoute nombre de beaux meubles que j'ai pu me procurer sur place. Le tout est d'un effet somptueux. Nous sommes donc très admirés, pour ne pas dire enviés ou presque. J'ai acheté 4 services de table de la porcelaine la plus fine, une profusion de verres en cristal et une argenterie devant laquelle Elsa est en extase. À propos d'Elsa, non, c'est trop drôle, voilà qui va sûrement t'amuser. Je lui ai offert un lit énorme, gigantesque, un lit comme on n'en avait jamais vu, comme un lit double, avec des montants de bois sculptés, vertigineux. En l'occurrence, j'ai dû faire fabriquer sur mesure des draps de lin. Elsa riait comme une gamine en le racontant à sa grand-mère. Mais celle-ci a secoué la tête et a grommelé « Nein, Martin, nein, vous avez fait ça, mais maintenant prenez garde parce qu'elle va encore grossir pour remplir son lit. »« Ya, dit Elsa, encore 4 grossesses et je tiendrai tout juste dedans. » Et tu sais quoi, Max? Eh bien, je crois qu'elle a raison. Bon, pour les enfants, il y a 3 poneys. Karl et Wolfgang ne sont pas en âge de monter. Et nous avons un précepteur. Leur allemand est exécrable, tristement matiné d'anglais. Pour la famille d'Elsa, la vie n'est plus aussi facile qu'avant. Ses frères ont tous une profession libérale, mais quoique très respectés, ils doivent vivre ensemble, forcés de partager une maison. À leurs yeux, nous sommes des milliardaires américains. Il s'en faut de beaucoup, mais néanmoins, l'importance de nos revenus transatlantiques nous place dans la catégorie des nantis. Les comestibles de qualité sont extrêmement chers et les troubles politiques sont fréquents. Même maintenant, sous la présidence de Hindenburg, un grand libéral que j'admire beaucoup. D'anciennes relations me pressent déjà de participer à la gestion municipale. J'y songe. Un statut officiel pourrait être tout à notre avantage, localement. Quant à toi, mon bon Max, ce n'est pas parce que nous t'avons abandonné que tu dois devenir un misanthrope. Trouve-toi immédiatement une gentille petite femme, bien gironde, qui sera aux petits soins pour toi et te nourrira comme un roi, le tout dans la bonne humeur. Crois-moi, ma prescription est bonne, même si elle me fait sourire. Tu me parles de Grisella. Cet amour de fille a bien gagné son succès. Je m'en réjouis avec toi. Encore que, même aujourd'hui, le fait qu'elle est obligée de se battre pour réussir me révolte. N'importe quel homme peut comprendre qu'elle était faite pour le luxe et la dévotion, pour une vie facile et charmante, où le bien-être épanouirait sa sensibilité. Ses yeux noirs reflètent une âme grave, mais aussi quelque chose de dur comme l'acier, et de très audacieux. C'est une femme qui ne fait rien, ni ne donne rien à la légère. Hélas, cher Max, comme toujours, je me trahis. Tu as gardé le silence durant notre aventure orageuse, mais tu sais combien ma décision m'a coûté. Tu ne m'as fait aucun reproche, à moi, ton ami, quand ta petite sœur souffrait. Et j'ai toujours senti que tu savais que je souffrais également, et pas qu'un peu. Mais que pouvais-je faire? Il y avait Elsa et mes fils encore petits. Toute autre décision eût été inopportune. Pourtant, je garde pour Grisella une tendresse qui survivra à son probable mariage ou à sa liaison avec un homme autrement plus jeune que moi. Tu sais, l'ancienne plaie s'est refermée, mais parfois la cicatrice me lancine encore. Bien sûr que tu peux lui donner notre adresse. Nous sommes si près de Vienne qu'elle aura ainsi l'impression de n'avoir qu'à tendre la main pour avoir un foyer. Tu te doutes qu'Elsa, qui ignore les sentiments que Grisella et moi avons éprouvés l'un pour l'autre, recevrait ta sœur avec la même affection qu'elle t'a reçue. Oui, il faut que tu lui dises que nous sommes ici et que tu la pousses à prendre contact avec nous. Félicite-la chaleureusement de notre part pour son beau succès. Elsa me demande de te faire ses amitiés et Heinrich brûle de dire « hello » à son oncle Max. Nous ne t'oublions pas, petit Max. De tout cœur avec toi, Martine.
Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco, USA, pour R. Martin Schulze, Munich, Allemagne, le 21 janvier 1933. Mon cher Martin, j'ai été heureux de pouvoir communiquer par écrit ton adresse à Griselle. Elle ne tardera pas à la recevoir, si ce n'est déjà fait. Que de réjouissance en perspective quand Griselle vous rendra visite. Je serai avec vous par la pensée, de tout cœur, comme si j'y étais en personne. Tu évoques la pauvreté qu'il y a là-bas. Ici, à cet égard, l'hiver est assez rude, mais naturellement ce n'est rien comparé aux privations que tu as constatées en Allemagne. Toi et moi avons de la chance d'avoir une galerie dont la clientèle est si fidèle. Elle dépense certes moins qu'avant, mais même si nous vendons deux fois moins, nous vivrons encore bien, sans prodigalité excessive, mais très confortablement. Les huiles que tu m'as envoyées sont de grande qualité. C'est incroyable que tu les aies eues à ce prix dérisoire. Elles vont partir tout de suite et nous allons faire un profit scandaleux. La vilaine madone est vendue, eh oui, à la vieille madame Fleischmann. J'hésitais à fixer un prix, mais elle m'a fait le coup de l'amateur éclairé. Alors, le souffle coupé de ma propre audace, j'ai lancé un chiffre astronomique. Me soupçonnant d'avoir un autre client, elle a pris la balle au bon et fait aussitôt son chèque avec un sourire rusé. Toi seul peux savoir à quel point j'exultais quand elle est partie avec cette horreur sous le bras. Hélas, Martine, j'ai souvent honte de moi-même pour le plaisir que je prends à ces petits triomphes futiles. Toi, en Allemagne, avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux de la famille d'Elsa, et moi, en Amérique, jubilant parce que j'ai roulé une vieille écervelée en la persuadant d'acheter une monstruosité. Quel apogée pour deux hommes de 40 ans. Est-ce pour cela qu'on vit ? Pour gagner de l'argent par des procédés douteux et en faire étalage aux yeux de tous ? Je ne cesse de me faire des reproches, mais je continue comme avant. Malheureusement, nous sommes tous embarqués sur la même galère. Nous sommes futiles et malhonnêtes parce que nous devons triompher de personnes futiles et malhonnêtes. Si ce n'est pas moi qui vends notre horreur à madame Fleischmann, c'est quelqu'un d'autre qui lui en vendra une pire. C'est une fatalité qu'il faut bien accepter. Heureusement qu'il existe un havre où l'on peut toujours savourer une relation authentique, le coin du feu chez un ami auprès duquel on peut se défaire de ses petites vanités et trouver chaleur et compréhension. Un lieu où les égoïsmes sont caducs et où le vin, les livres et la conversation donnent un autre sens à la vie. Là, on a construit quelque chose que la fausseté ne peut atteindre. On s'y sent chez soi. Qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en Allemagne ? Ce que je lis sur son compte m'inquiète beaucoup. Embrasse les gosses et notre abondante Elsa de la part de ton affectionné, Max.
Le 25 mars 1933, à Max Eisenstein, Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco. Cher vieux Max, tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur. Franchement, Max, je crois qu'à nombreux égards, Hitler est bon pour l'Allemagne. Mais je n'en suis pas sûr. Maintenant, c'est lui qui, de fait, est le chef du gouvernement. Je doute que Hindenburg lui-même puisse le déloger du fait qu'on l'a obligé à le placer au pouvoir. L'homme électrise littéralement les foules. Il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique. Mais je m'interroge, est-il complètement sain d'esprit ? Ses escouades en chemise brune sont issues de la populace. Elles pillent. Et elles ont commencé à persécuter les Juifs. Mais il ne s'agit peut-être là que d'incidents mineurs. La petite écume trouble qui se forme en surface quand bouillonne le chaudron d'un grand mouvement. Car je te le dis, mon ami, c'est à l'émergence d'une force vive que nous assistons dans ce pays. Une force vive. Les gens se sentent stimulés. On s'en rend compte en marchant dans les rues, en entrant dans les magasins. Ils se sont débarrassés de leur désespoir, comme on enlève un vieux manteau. Ils n'ont plus honte, ils croient de nouveau à l'avenir. Peut-être va-t-on trouver un moyen de mettre fin à la misère. Quelque chose, j'ignore quoi, va se produire. On a trouvé un guide. Pourtant, prudemment, je me dis tout bas, où cela va-t-il nous mener ? Vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées. Naturellement, je n'exprime pas mes doutes en public, puisque je suis désormais un personnage officiel au service du nouveau régime. Je clame au contraire ma jubilation sur tous les toits. Ceux d'entre nous Les fonctionnaires de l'administration locale, qui tiennent à leur peau, sont prompts à rejoindre le national-socialisme. C'est le nom du parti de Herr Hitler. Mais en même temps, cette attitude est bien plus qu'un expédient. C'est la conscience que nous, le peuple allemand, sommes en voie d'accomplir notre destinée, que l'avenir s'élance vers nous, telle une vague prête à déferler. Nous aussi, nous devons bouger, mais dans le sens de la vague, et non à contre-courant. De graves injustices se commettent encore aujourd'hui. Les troupes d'assaut célèbrent leur victoire, et chaque visage ensanglanté qu'on croise vous fait secrètement saigner le cœur. Mais tout cela est transitoire. Si la finalité est juste, ces incidents passagers seront vite oubliés. L'histoire s'écrira sur une page blanche et propre. La seule question que je me pose désormais, vois-tu, tu es le seul à qui je puisse me confier, est celle-ci. La finalité est-elle juste ? Le but que nous poursuivons est-il meilleur qu'avant ? Parce que tu sais, Max, depuis que je suis dans ce pays, je les ai vus, ces gens de ma race, et j'ai appris les souffrances qu'ils ont endurées durant toutes ces années, le pain de plus en plus rare, les corps de plus en plus maigres et les esprits malades. Ils s'étaient pris jusqu'au cou dans les sables mouvants du désespoir. Ils allaient mourir. Mais un homme leur a tendu la main et les a sortis du trou. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est qu'ils survivront. Ils sont possédés par l'hystérie de la délivrance, et cet homme, ils le vénèrent. Mais quel que fût le sauveur, ils auraient agi ainsi. Plaise à Dieu qu'il soit un chef digne de ce nom, et non un ange de la mort. À toi seul, Max, je peux avouer que j'ignore qui il est vraiment. Oui, je l'ignore. Pourtant, je ne perds pas confiance. Oh, mais assez de politique! Cette nouvelle maison nous enchante, et nous recevons beaucoup. Ce soir, c'est le maire que nous avons invité. Un dîner de 28 couverts. Tu vois, on étale un peu la marchandise. Mais il nous le faut le pardonner. Elsa a une nouvelle robe en velours bleu. Elle est terrifiée à l'idée de ne pouvoir rentrer dedans. Elle est de nouveau enceinte. Rien de tel pour satisfaire durablement sa femme. Max, faire en sorte qu'elle soit tellement occupée avec les enfants qu'elle n'ait pas le temps de geindre. Notre Heinrich a fait une conquête mondaine. Il montait son poney quand il s'est fait désarçonner. Et qui l'a relevé ? Le baron von Freisch en personne. Ils ont eu une longue conversation sur l'Amérique. Puis un jour, le baron est passé chez nous et nous lui avons offert le café. Il a invité Heinrich à déjeuner chez lui la semaine prochaine. Quel bon garçon ce Heinrich ! Il fait la joie de tout le monde. Dommage que son allemand ne soit pas meilleur. Ainsi, mon cher ami, allons-nous peut-être participer activement à de grands événements, ou peut-être nous contenter de poursuivre notre petit train-train familial. Mais nous ne renoncerons jamais à l'authenticité de cette amitié dont tu parles de façon si touchante. Notre cœur va vers toi au-delà des vastes mers, et quand nous remplissons nos verres, nous ne manquons jamais de boire à la santé de l'oncle Max. Souvenir affectueux. Martine !
Happy. chances now then, but I never had the feeling I could offer that to you. To offer it to you would be cruel, when all I want to do is use you. It was a diplomat's son, he was 81. It was a diplomat's son, he was 81. Oh, 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 oh.
Galerie Schulze-Eisenstein, San Francisco, USA, pour R. Martin Schulz, Munich, Allemagne, le 18 mai 1933. Cher Martine, je suis bouleversé par l'afflux de reportages sur ta patrie qui nous parviennent. Comme ils sont assez contradictoires, c'est donc tout naturellement vers toi que je me tourne pour y voir plus clair. Je suis sûr que les choses ne vont pas aussi mal qu'on veut bien le dire. Notre presse s'accorde à parler d'un terrible pogrom. Qu'en est-il ? Je sais que ton esprit libéral et ton cœur chaleureux ne pourront tolérer la brutalité et que tu me diras la vérité. Le fils d'Aaron Silbermann vient tout juste de rentrer de Berlin et il paraît qu'il l'a échappé belle. Il raconte sur ce qu'il a vu, des flagellations, le litre d'huile de ricin forcé entre les lèvres et les heures d'agonie consécutives par l'éclatement de l'intestin, des histoires affreuses. Ces exactions pourraient être vraies et elles pourraient en effet n'être que le résidu malpropre d'une révolution, par ailleurs humaine, l'écume trouble comme tu dis. Malheureusement pour nous, les Juifs, la répétition ne les rend que par trop familières, et je trouve presque incroyable qu'on puisse, aujourd'hui, au sein d'une nation civilisée, faire revivre à nos frères le martyr ancestral. Écris-moi, mon ami, pour me rassurer sur ce point. la pièce dans laquelle joue Griselet fait un triomphe et se donnera jusqu'à la fin du mois de juin. Elle m'écrit qu'on lui a proposé un autre rôle à Vienne et un autre encore superbe à Berlin pour cet automne. C'est surtout de ce dernier qu'elle me parle, mais je lui ai répondu d'attendre pour s'engager que les sentiments anti-juifs se calment. Bien entendu, son nom de scène n'a pas une consonance juive. De toute façon, il était exclu qu'elle monte sur les planches avec un nom comme Eisenstein. Mais, pseudonyme ou non, tout chez elle trahit ses origines. Ses traits, ses gestes, la passion qui vibre dans sa voix. Si les sentiments antisémites sont une réalité, elle ne doit à aucun prix s'aventurer en Allemagne en ce moment. Pardonne-moi, mon ami, pour la brièveté de ma lettre et l'absence de liberté d'esprit dont elle témoigne, mais je n'aurai pas de repos tant que tu ne m'auras pas rassuré. Je sais que tu m'écriras en toute honnêteté. Je t'en prie, fais-le vite. C'est haut et fort que je te proclame ma foi en toi et mon amitié pour toi et les tiens. Ton fidèle, Max.
Le 9 juillet 1933, à Max Eisenstein, Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco. Cher Max, comme tu pourras le constater, je t'écris sur le papier à lettre de ma banque. C'est nécessaire, car j'ai une requête à t'adresser et souhaite éviter la nouvelle censure qui est des plus strictes. Nous devons présentement cesser de nous écrire. Il devient impossible pour moi de correspondre avec un juif. Et ce le serait, même si je n'avais pas une position officielle à défendre. Si tu as quelque chose d'essentiel à me dire, tu dois le faire par le biais de la banque, au dos de la traite que tu m'envoies, et ne plus jamais m'écrire chez moi. En ce qui concerne les mesures sévères qui t'affligent tellement, je dois dire qu'au début elles ne me plaisaient pas non plus, mais j'en suis arrivé à admettre leur douloureuse nécessité. La race juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge. Je n'ai jamais haï les Juifs en tant qu'individu. Toi, par exemple, je t'ai toujours considéré comme mon ami. Mais sache que, je parle en toute honnêteté, quand j'ajoute que je t'ai sincèrement aimé, non à cause de ta race, mais malgré elle. Le Juif est le bouc émissaire universel. Il doit bien y avoir une raison à cela. Et ce n'est pas la superstition ancestrale consistant à les désigner comme les assassins du Christ qui éveille une telle méfiance à leur égard. Quant aux ennuis juifs actuels, ils ne sont qu'accessoires. Quelque chose de plus important se prépare. Si seulement je pouvais te montrer, non, t'obliger à constater la renaissance de l'Allemagne sous l'égide de son vénéré chef. Un si grand peuple ne pouvait pas rester éternellement sous le joug du reste du monde. Après la défaite, nous avons plié les Chines pendant 14 ans. Pendant 14 ans, nous avons mangé le pain amer de la honte et bu le brouet clair de la pauvreté. Mais maintenant, nous sommes des hommes libres. Nous nous redressons, conscients de notre pouvoir. Nous relevons la tête face aux autres nations. Nous purgeons notre sang de ces éléments impurs. C'est en chantant que nous parcourons nos vallées. Nos muscles vibrent, impatients de s'atteler à un nouveau labeur, et nos montagnes résonnent des voix de Wotan et de Thor, les anciens dieux de la race germanique. Mais non, tout en écrivant et en me laissant aller à l'enthousiasme suscité par ces visions si neuves, je me dis que tu ne comprendrais pas à quel point tout cela est nécessaire pour l'Allemagne. Tu ne t'attacheras, je le sais, qu'aux ennuis de ton propre peuple. Tu refuseras de concevoir que quelques-uns doivent souffrir pour que des millions soient sauvés. Tu seras avant tout un juif qui pleurniche sur son peuple. Cela, je l'admets, c'est conforme au caractère sémite. Vous vous lamentez, mais vous n'êtes pas assez courageux pour vous battre en retour. C'est pourquoi il y a des pogroms. Hélas, Max, tout cela va te blesser, je le sais, mais tu dois accepter la vérité. Parfois, un mouvement est plus important que les hommes qui l'initient. Pour ma part, j'y adhère corps et âme. Heinrich est officier dans un corps de jeunesse sous les ordres du baron von Freisch. Le nom de ce dernier rehausse encore notre maison car il rend souvent visite à Heinrich et à Elsa, qu'il admire beaucoup. Quant à moi, je suis débordé de travail. Elsa ne s'intéresse guère à la politique, elle se contente d'adorer notre noble chef. Elle se fatigue vite ce dernier mois, cela peut signifier que le bébé arrivera plus tôt que prévu. Ce sera mieux pour elle quand le dernier de nos enfants sera né. Je regrette qu'on doive mettre ainsi fin à notre correspondance, Max. Il n'est pas exclu que nous nous retrouvions un jour sur un terrain où nous pourrons développer une meilleure compréhension mutuelle. Cordialement, Martin Schulz.
Il disait, je dois prendre un train, il s'agit de quitter les hommes. M'en aller avec les chiens au hasard que la vie me donne. Que la vie me donne. On l'aurait découpé en tranches que chaque tranche aurait voulu fuir. Eût-on cloué entre des planches qu'il aurait quand même su partir. Il aurait su. Il avait déserté sans doute une armée de frères en déroute. Ici pas d'arbre pour le pendre et plus d'eau pour le noyer. Là-bas même si j'ai la pierre fendre le sang peut circuler. On peut circuler. La femme à qui il a menti, une main levée au ciel, clamait que sous son manteau gris, elle avait cru voir comme des ailes. Elle avait vu des ailes. Ceux qui veulent l'empêcher de fuir vont devoir apprendre à courir. Moi j'aime quand la lune est un poignard aiguisé. Elle transperce les pierres une à une jusqu'à les faire saigner. Jusqu'à les faire saigner. Ils ont renoncé.
C'était donc la première partie d'Inconnu à cette adresse, le roman épistolaire de Cressman Taylor. Vous avez déjà compris que l'amitié des deux hommes va être mise à mal par l'histoire, avec un grand H. Qu'en sera-t-il de la suite? Vous le saurez lors de la prochaine émission, qui sera diffusée toujours le lundi après-midi à cette même heure, mais attention, dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien, à bientôt.
Au revoir.
neon is, cease advancing because the people.